J'ai une très bonne question pour vous. Comment pouvons-nous échapper à la condamnation de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui pourra changer votre vie aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Dieu m'encourage beaucoup à travers les enseignements qu'on reçoit dans le livre d'Esther. Il doit sûrement en faire de même pour vous. Voici les questions qu'on va poser à ce beau livre aujourd'hui. Est-ce que Dieu nous accorde parfois son aide à la toute dernière minute? Est-ce qu'il est au contrôle de toutes choses? Est-ce qu'il prend soin de ceux qui lui appartiennent? Est-ce qu'on récolte toujours ce que l'on sème? Comment pouvons-nous échapper à la condamnation de Dieu? Restez là. La parole de Dieu va répondre à toutes nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence merveilleuse de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, ta présence est merveilleuse, parce que tu es merveilleux. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre maître. Viens nous enseigner aujourd'hui. Enseigne-nous ta belle parole et aide-nous à la mettre en pratique chaque jour. On a besoin de toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le roi était disposé à accorder à Esther tout ce qu'elle désirait. Elle réinvita le roi et Aman à un autre festin le lendemain et promit de faire connaître le désir de son cœur au roi. Aman sortit du banquet le cœur réjoui, mais son humeur se modifia lorsqu'il aperçut Mardochée qui ne se prosternait toujours pas devant lui. Suivant les conseils de sa femme et de ses amis, Aman fit ériger une potence de 25 mètres de hauteur avec l'intention de demander au roi la permission d'y pendre Mardochée le lendemain. Nous avons souligné, avec des exemples de personnages bibliques, que la haine et l'amertume dans le cœur d'un homme peuvent provoquer sa ruine. Nous avons vu que Dieu passe maintenant à l'action. Le roi ne peut pas dormir. Donc, il se fait lire les annales, c'est-à-dire les procès-verbaux de ses décisions. Il découvre que Mardochée ne fut pas récompensé pour avoir dénoncé un complot pour l'assassiner. Au moment où le roi se rend compte de cela, Aman vient pour demander l'autorisation d'exécuter Mardochée. Le roi demande à Aman ce qu'il faut faire pour un homme que le roi veut honorer. Le premier ministre pense que c'est lui que le roi veut honorer. Nous reprenons notre étude avec la réponse de Aman. Chers amis, débutons notre lecture. Esther chapitre 6, versets 7 à 9. Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis, revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » La véritable nature d'Aman est révélée dans cette réponse. Nous commençons à déceler qu'Aman a un œil sur le trône. Il avait l'intention d'éliminer le roi au moment propice. Cela se produisait souvent avec les rois de Perse. Un homme éprouvait de la difficulté à demeurer longtemps sur le trône. Il en fut ainsi avec le royaume d'Israël après la division de la nation. De nombreux rois régnèrent sur Israël, mais ils furent souvent assassinés. Certains rois ne régnèrent même pas 2 mois. Lorsqu'un roi montait sur le trône, il devait se surveiller. Il ne savait plus qui étaient ses amis et qui étaient ses ennemis. Il savait que de nombreuses personnes désiraient s'emparer de son trône. Aman aspirait probablement à monter sur le trône de Perse un jour. Aman se dit, « Qui est-ce que le roi veut honorer, si ce n'est moi ?»« Que l'on me donne le vêtement du roi, que l'on mette la couronne sur ma tête, qu'on me laisse monter son cheval, et que quelqu'un marche devant moi afin de proclamer que le roi m'honore !» Que fait Aman exactement ? Il prépare le peuple pour le jour où il deviendra roi et qu'il portera la couronne et les vêtements royaux. Je pense que le roi s'est douté de quelque chose et qu'il a perçu qu'Aman pensait que c'était lui qui serait honoré et certainement pas Mardoché. Verset 10. Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché. » Le juif qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Parfois, Dieu fait attendre son aide jusqu'à la dernière minute. Aman n'a jamais demandé au roi la permission d'exécuter Mardoché. Parfois, Dieu fait attendre son aide jusqu'à la dernière minute. Je tiens à le préciser. Rien ne pouvait déplaire davantage à Aman que cet ordre. Car il serait couvert de honte devant ses amis et sa famille qui connaissaient ses projets à l'égard de Mardoché. Aman fut mortifié par cet ordre et il dut haïr Mardoché énormément. Verset 11. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Aman avait projeté de faire pendre Mardoché, non de l'honorer publiquement au nom du roi. L'humiliation d'Aman était extrême pendant qu'il se promenait dans la ville devant Mardoché. Il honorait l'homme qui refusait de se prosterner devant lui et pour qui il avait fait construire une potence très élevée. Versets 12 à 14. Mardoché retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Finalement, l'épreuve se termina. Mardoché retourna à ses fonctions à la porte du roi. Aman rentra chez lui rapidement la tête voilée, tellement il avait honte. Il raconta tout ce qui s'était passé à sa femme et à ses amis. Zeresh est la plus gentille des épouses, n'est-ce pas? Elle avait suggéré à Aman de construire la potence, et maintenant elle dit à son mari, « Je te l'avais dit, c'est le commencement de la fin pour toi. » Quel encouragement! Nous contrôlons peu de choses, chers amis. Lorsque ton épouse et tes amis te disent que ta fin approche, c'est loin d'être une consolation. Les événements se déroulent rapidement maintenant. Aman a à peine le temps de tout raconter à son épouse et à ses amis que les serviteurs du roi passent le prendre pour le conduire au festin d'Esther. Il avait eu hâte de participer à ce festin, surtout qu'il est le seul à y être invité, à part le roi. Et il ne s'était pas privé de s'en vanter. Aman dut partir immédiatement pour ne pas être en retard. Les événements se précipitent et Aman ne les contrôle pas. Rien de ce qui se passe est à son avantage, parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu fera échouer les projets de Aman. Chapitre 7, versets 1 et 2. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Aman arrive au banquet, mais il est confus dans son âme. Il est heureux de l'invitation de la reine, mais il n'est pas encore entièrement remis de son humiliation. Aman ne comprend pas encore pourquoi c'est Mardochée qui fut honoré plutôt que lui. Maintenant, Esther a rassemblé tout son courage et elle va présenter sa requête au roi. Elle ne pouvait pas le faire avant, mais elle est prête maintenant, même si elle est nerveuse. Le roi lui promet de nouveau d'accorder sa requête. Il lui propose encore la moitié du royaume, et ce, pour la troisième fois. Versets 3 et 4. La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore, si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Lorsque Esther parla, elle révéla une chose effrayante. Le roi et Aman furent tous deux surpris, car ils ignoraient la nationalité d'Esther. Elle demande d'être épargnée ainsi que son peuple. Mardochée avait recommandé à Esther de ne pas révéler sa nationalité juive lorsqu'elle fut conduite dans la maison du roi pour lui être présentée. Elle gardait son secret depuis ce jour-là. Aman avait obtenu que la loi émette un décret condamnant tous les Juifs dans son royaume. Il ne savait pas qu'il signait l'arrêt de mort d'Esther, qui était une juive. Maintenant, elle s'identifiait à son peuple. Elle s'était si éloignée de son peuple qu'elle cachait sa nationalité. Mais maintenant, elle se tient avec son peuple condamné. Maintenant, elle s'identifie avec sa religion et son Dieu. Tous savaient qui est le Dieu des Juifs. Elle explique que si elle et son peuple avaient été vendus pour être des esclaves, elle se serait tue. Mais son peuple a été vendu pour être exterminé un jour spécifique. Elle voulait que le roi sache que les Juifs avaient été trahis. Le roi était abasourdi. Rien n'aurait pu le rendre plus stupéfait. Qui oserait tenter de tuer la reine? Qui oserait s'en prendre à son peuple? Jamais le roi n'avait entendu quelque chose d'aussi étonnant. Il ne s'attendait pas à une telle requête. La reine et son peuple étaient condamnés. Verset 5. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? » Le roi est étonné. Il ne peut imaginer qu'une telle chose se produise dans son royaume. Il ne se rend pas encore compte quel est le peuple qui sera exterminé. Cet homme n'avait aucune considération pour la vie humaine. Lors de ses campagnes militaires en Europe et contre la Grèce, Xerxès a envoyé de nombreux hommes se faire massacrer. Cela ne l'a pas empêché de dormir. À ses yeux, la vie humaine n'avait pas de valeur. Ce qui le dérange, c'est que le peuple en question est le peuple d'Esther, sa reine, son épouse. La vie de sa reine est en danger, donc il demande, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Aman ne perçoit pas encore ce qui se passe vraiment. Il ne savait pas que le décret ordonnant le génocide des Juifs condamnerait la reine. Il ignorait qu'elle était juive. Il était là, étendu à la table, lui, le premier ministre, et il avait la confiance entière du roi. Assuérus demande qui a bien pu organiser ce complot. Esther manifeste son courage. Elle risque sa vie en répondant à cette question. Verset 6. Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Aman ne pouvait répondre à cela. Il est assommé en apprenant qu'Esther est une juive. Chers amis, Dieu travaille dans les coulisses. Il surveille les siens. Aucun complot contre Israël ne réussira. Dieu bénit ceux qui bénissent son peuple. Par sa providence, Dieu sauvera les enfants d'Israël. Le roi et si étonné qu'il quitte la table du festin pour se rendre au jardin. Il est impliqué dans cette affaire, et il prend un moment de réflexion. Verset 7. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Le roi devait prendre le temps de réfléchir. Il ne pouvait croire qu'Aman ferait une telle chose. Mais la reine l'a supplié afin qu'il l'épargne à cause d'Aman. Il croyait sa reine. Le roi avait besoin de se calmer pour réfléchir clairement au sujet du malheur d'Esther et d'Aman, son homme de confiance, son conseiller et premier ministre. Oui, le roi avait besoin de temps pour réfléchir. Alors que le roi fait les 100 pas dans le jardin, Aman en est réduit à supplier Esther pour sa vie. Celui qui en faisait facilement condamner d'autres à mort rampait maintenant au pied de la reine. Il n'est pas mieux qu'un esclave. Il sait que le roi ne laissera pas passer ce qu'il a fait et que sa perte est décidée. Il sait que son unique espoir d'obtenir grâce est par Esther. Verset 8. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voilà le visage d'Aman. Aman suppliait la reine pour sa vie, et il voyait qu'il n'arrivait à rien. Il sait qu'il sera puni pour ce qu'il a fait. Dans sa terreur folle, il se précipite vers le lit d'Esther. À cette époque, l'on mangeait étendu sur un lit. Lorsque le roi revient, il aperçoit Aman et dit « Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais ?» Sous l'effet de la terreur, Aman s'était trop approché de la reine. Il devait lui toucher. En fait, le roi dit « Que fait cet homme? Il n'a pas le droit de toucher la reine. » Le roi n'a pas eu besoin de donner aucun ordre. Il rentrait du jardin, vit la scène devant lui, prononça les paroles citées, et les serviteurs présents savaient quoi faire. Notez que les serviteurs n'ont pas bougé tant que le roi n'a pas parlé. La reine n'avait pas demandé d'aide. Peut-être était-elle trop effrayée. Mais lorsque le roi est intervenu, les serviteurs ont arrêté Aman. Versets 9 et 10. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit, « Qu'on y pende Aman. » Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le roi n'a pas perdu de temps. Non seulement était-il le policier qui a fait l'arrêt, mais il était aussi le juge de la Cour suprême. Le soir même, Aman fut pendu à la potence qu'il avait érigée pour Mardochée. Ceci démontre une vérité répétée souvent dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a résumé cette vérité dans l'Épître aux Galates. « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Galates, chapitre 6, verset 7. Aman fut pendu à la potence qu'il avait fait construire pour un homme innocent. Jacob a aussi fait l'expérience de cette vérité. Il avait trompé son père pour obtenir la bénédiction d'Ésaü à la place de son frère. Il avait été très rusé. Il avait revêtu les vêtements de son frère, et son père, dont la vue était faible, a senti les vêtements et a cru que c'était son fils Ésaü. Jacob avait recouvert sa main d'une fourrure, car il n'était pas aussi poilu que son frère. Jacob dut croire qu'il avait agi avec intelligence. Il était celui choisi par Dieu, mais Dieu ne le laissait pas s'en tirer avec sa supercherie. alors qu'il était âgé, ses fils lui rapportèrent la tunique de Joseph leur frère. Il l'avait tachée de sang pour faire croire à son décès, alors qu'il l'avait vendu comme esclave. Jacob fut trompé au sujet de son fils préféré, comme il avait trompé son propre père. Oui, chers amis, nous récoltons toujours ce que nous semons. Paul avait aussi l'occasion d'éprouver la véracité de cette loi. Il semble qu'il ait été l'homme qui ait ordonné la lapidation d'Étienne. Même s'il s'est converti plus tard, Paul ne s'en est pas tiré. Ses péchés furent pardonnés au moment de sa conversion, mais il a dû récolter ce qu'il a semé. Lors de son premier voyage missionnaire, Paul fut lapidé à Lystre, une ville de Galatie. Il fut laissé pour mort. Paul a vu la véracité de ces mots. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Aman apprend maintenant cette leçon. Elle fut dure, très dure. Cet homme alla à un banquet et il fut pendu. Le psaume 37, versets 35 et 36 dit « J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. » Autrement dit, « Petit homme, tu peux avoir ton tour. Sois un méchant si tu le désires. Oppose-toi au dessein de Dieu pour ta vie, et choisis une autre voie. Cependant, tu ne l'emporteras pas sur Dieu. Tu quitteras la scène. » Et c'est ce qui est arrivé à Aman. Comment échapper au sort d'Aman? Voilà la question, chers amis. Vous et moi sommes des pécheurs coupables devant Dieu. Nous méritons la même condamnation qu'Aman, tous la peine de mort. C'est ce que la Bible précise, Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas commis un crime grave comme ceux d'Aman. Qui vous accuse de l'avoir fait? Mais vous avez la même nature humaine que lui, et elle se rebelle contre Dieu, elle s'oppose à Dieu. Et lorsque vous vous trouviez dans cet état, mort dans vos péchés et vos iniquités, le Seigneur Jésus est mort pour vous. Il a pris votre place à la croix. Mes amis, si vous mettez en lui votre confiance, il sera votre sauveur. L'homme croit contrôler son destin, mais en fait, il ne contrôle rien. Parfois, Dieu intervient de façon miraculeuse. C'est ainsi qu'il a libéré son peuple d'Égypte. Par contre, pour l'y amener, il s'était servi de sa providence. Joseph, le fils de Jacob, qui fut vendu comme esclave, devint l'homme le plus puissant du royaume après Pharaon. Il y fit venir sa famille pour la sauver de la famine. Mais quelques générations plus tard, lorsqu'il fut le temps de libérer son peuple, il manifesta sa gloire par des miracles. Il envoya 10 plaies contre l'Égypte, et le peuple traversa la mer Rouge à sec. Lorsque son peuple prit possession de la terre promise, Dieu accorda des victoires militaires au moyen de miracles. Par exemple, il a fait tomber, miraculeusement, les murs de Jéricho. Lorsqu'il ramena son peuple de la captivité de Babylone, il se servit de sa providence. Oui, chers amis, Dieu agit parfois en coulisses. Prochaine émission, Esther, chapitre 8.
Merci, Régent. Mes amis, à travers l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui, je me suis rendu compte de l'humiliation qui a fait suite à l'orgueil d'une personne. Quand le roi a demandé à Aman ce qu'il devait faire pour honorer un homme, Aman a tout de suite pensé que c'était lui que le roi voulait honorer. Et finalement, ce n'était pas lui, c'était Mardoché. Et comme Régent nous l'a mentionné, Aman a même subi l'humiliation d'honorer Mardoché publiquement dans la ville au nom du roi. Waouh! On voit encore l'accomplissement de la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 18, que l'orgueil précède la chute. En bon Québécois, je pourrais dire que Aman a pris toute une débarque, d'après ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et dans le même livre, au chapitre 18, verset 12, il est écrit qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais que l'humilité précède la gloire. Mes amis, je sais que je ne suis pas une ennemie de Dieu comme Aman l'était, mais je sais aussi que je dois faire attention à l'orgueil. Dieu déteste tout orgueil, et quand il voit de l'orgueil dans la vie de ses enfants, il se charge de nous humilier pour nous apprendre l'humilité. Il ne veut pas nous détruire, mais il nous reprend avec amour, pour que notre vie serve à sa gloire à lui seul et non à la nôtre. Est-ce que vous vous souvenez du petit livre de Andrew Murray dont je vous ai parlé il y a quelque temps? Il est intitulé « L'humilité, la beauté de la sainteté ». J'aimerais vous en lire un autre passage dans lequel il cite l'apôtre Paul. Il dit « Je me glorifierai volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Et M. Murray dit que l'homme humble a appris le secret de la joie permanente. Plus il sent sa faiblesse, plus il succombe dans le sentiment de son néant, plus ses humiliations grandissent en nombre et en force, plus aussi la puissance et la présence de Christ sont sa part. Et quand il dit « Je ne suis rien », le Seigneur lui apporte une joie toujours plus profonde par ses paroles « Ma grâce te suffit ». Mes amis, je désire atteindre cette humilité, et je suis certaine que vous le désirez aussi. Demandons à Dieu de nous l'accorder. Soyons prêts à payer le prix pour l'atteindre. C'est Dieu qui va la produire en nous. C'est son œuvre qui va nous amener à mourir à nous-mêmes, afin que Jésus soit tout en nous. Disons comme Jean-Baptiste a dit au sujet de Jésus, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Je suis certaine que c'est comme ça qu'on peut être dans la joie, peu importe les circonstances. Mes amis, prions ensemble. Seigneur mon Dieu, pardonne-nous premièrement tout manque d'humilité dans notre vie, tout orgueil, cet orgueil qui est si laid, si contraire à toi. Remplis-nous de cette humilité de Jésus. Apprends-nous à être doux et humbles de cœur. Apprends-nous à nous réjouir lorsqu'une situation nous humilie, afin de laisser Jésus être tout en nous. On veut, Seigneur Jésus, que tu prennes toute la place dans nos vies. Et on veut que tu nous donnes en même temps le fardeau des âmes que tu as, cet amour inconditionnel pour notre prochain, pour tous ceux qui nous entourent, pour te faire connaître à eux. Te faire connaître à eux premièrement par notre vie, en vivant ton humilité et ta douceur, pour que les gens reconnaissent que tu es le sauveur du monde, que c'est toi qui veux leur donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, tu es merveilleux.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Ah,
pour en faire
compliqué.
La correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.